Ben, merci beaucoup à tout le monde pour ce beau temps de louange. Souvent, on remercie les louangeurs, hein, les musiciens, les chantres. Voilà. Merci, Luc. Et en fait, moi, ce matin, au saxo, je vous regardais, vous étiez magnifiques, vraiment. Et donc, je vous remercie. Parce que c'est hyper encourageant de jouer devant un auditoire qui est à fond, qui loue son Seigneur, qui adore son Seigneur. Donc, bravo à vous également. On a tous loué Dieu ensemble et vous êtes aussi beau que ce qu'on peut être sur l'estrade. Alors, c'est marrant l'introduction de Fabrice parce que apparemment je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Je le reconnais en effet. Et cette semaine, en fait, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je vais partager à mes frères et à mes sœurs pour ce message ce matin. Et donc lundi, je cherche un peu, je prie, je réfléchis, à rien, zéro réponse du ciel. Donc je passe à mardi, je réfléchis, je questionne, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? J'ai envie d'apporter quelque chose qui va correspondre. Je veux pas choisir une thématique comme ça et l'apporter. On peut parler de tout, il y a tellement de sujets, mais j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose qui va répondre à un besoin. Mardi, zéro, silence radio de la part du ciel. Mercredi, zéro. Jeudi, zéro. Vendredi, zéro. Donc là, je commence à flipper, j'en parle à ma femme, qui me donne des thématiques. Ouais, bon, ça me fait zéro ce qu'elle me dit, donc... Et hier soir, alors que j'étais devant l'urgence, j'ai eu la révélation, en fait. Dieu me parle depuis lundi. Il me demande de parler du silence, les silences de Dieu. Et donc ce matin, je vais vous parler des silences de Dieu que l'on rencontre dans nos vies. Et c'est marrant parce que Fabrice parle de moi comme quelqu'un d'assez silencieux, donc c'est rigolo. Moi, j'aime bien le silence, à vrai dire. J'aime bien ces moments où je me retrouve avec moi-même dans la nature ou dans ma chambre. Je suis quelqu'un qui aime faire la fête énormément, qui aime les gens énormément. Et j'ai un métier où je suis sans cesse en relation avec les gens. Je passe beaucoup de temps au téléphone, en réunion. Mais qu'est-ce que j'aime aussi ces moments où je déconnecte et où je me retrouve avec moi-même, face à moi-même et face à mon sauveur. Et je trouve que c'est super précieux. Et petit, le silence me gênait. C'est sûr, quand on est enfant, on est timide. Hein, donc y a le silence, c'est impressionnant quand même. Ça peut gêner. Et puis un jour, j'ai découvert que le silence, ça avait une force, en fait. Ça parlait, en fait. Ça pouvait nous parler. Et je voudrais vous parler des silences de Dieu que l'on rencontre dans notre vie chrétienne. C'est vrai que quand on peut apprécier ces temps de silence, mais quand c'est un silence du ciel, c'est quand même différent. Dans la vie chrétienne, des fois, on a des moments où on a une demande, une requête, on a besoin d'une direction, on a besoin d'une guérison, d'une bénédiction particulière, et elle tombe tout de suite. Il suffit d'un mot, et puis paf, ça tombe, et c'est arrivé dans nos vies. On a vu des choses miraculeuses se passer comme ça en un instant. Et puis des fois, pour les mêmes requêtes, pour les mêmes besoins, eh ben ça traîne et on a l'impression que Dieu ne répond pas, que Dieu n'entend pas, que Dieu n'écoute pas. On est face au silence de Dieu. Et c'est des fois dur à vivre. On est dans une société de l'instantané, hein, de plus en plus. Il faut que ça aille vite. Le silence, en fait, est de plus en plus pesant. Hein. C'est-à-dire que enfin, moi qui travaille des clients, quand je fais un mail à un client, s'il ne me répond pas le soir même, ça commence à m'agacer. J'ai besoin d'une réponse dans la journée ou dans les jours qui suivent pour pouvoir enclencher un processus. Et c'est vrai que des fois, les silences, c'est très gênant. Et surtout quand c'est un silence qui vient du ciel, en fait, on peut avoir le sentiment de ne pas être aimé de la part du Seigneur, on peut avoir le sentiment de ne pas être considéré, on peut avoir le sentiment de ne pas intéresser notre Père Céleste, et de là naît les fameux 3 R, hein, la rancœur, le rejet et la rébellion. Avec le processus, d'abord la rancœur, ensuite du coup le rejet et la rébellion. Et dans la Bible, en fait, on a de multiples exemples de gens qui sont passés par ces phases où le ciel ne répondait pas, le ciel était silencieux. On connaît par exemple Abraham et Sarah qui ont eu la promesse d'avoir un enfant et qui ont attendu des années et des années. Ils ont même choisi un autre stratagème avec Agar. Hein. Ils ont essayé de provoquer la promesse de Dieu, en fait. Et finalement, un jour, la promesse est arrivée, ils ont eu cet enfant. On peut imaginer, ça a duré un temps fou, donc on peut imaginer dans quels états ils étaient. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu nous l'as promis, rien n'arrive. On peut penser à Paul également, qui le dit dans les Corinthiens, hein, quand il raconte un peu ce qu'il vit, quand il va de ville en ville, et qu'il traverse l'Asie mineure, il dit « J'ai eu froid, j'ai eu faim, des brigands m'ont attaqué, j'ai été battu 3 fois par les Romains, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit en pleine mer. » Enfin, c'est des choses qu'on oublie souvent. Mais Paul, quand même, le serviteur de Dieu, celui qui avait reçu l'autorité et l'onction de Dieu, s'est retrouvé dans ces situations. Et dans ces situations-là, quand on passe un jour et une nuit en mer, j'imagine qu'on se dit « Mais t'es où, Seigneur ? Tu es où, Seigneur ? Tu es où ? C'est quoi ce silence ? Qu'est-ce qui se passe ?» Dans les psaumes également, hein, le roi David écrit souvent des psaumes qui font attrait au silence de Dieu. « Seigneur, réponds-moi, ne te tais pas. » Seigneur, fais arrêter ton silence envers moi, aie compassion de moi. » Et on sent un homme de Dieu qui est dans la recherche de la relation avec Dieu, mais qui à ce moment-là n'existe pas. Et moi, j'aimerais ce matin qu'on puisse tirer profit de ces silences de Dieu, en fait, qu'on ne voit pas ça comme quelque chose de négatif, mais qu'on puisse essayer de voir ensemble pourquoi il y a du positif dans ces silences de Dieu. Il y a un proverbe qui dit « Si la parole que tu vas dire n'est pas plus belle que le silence, alors ne la dis pas. » Et des fois, Dieu n'a pas besoin de nous parler. Il a juste besoin d'être silencieux avec nous pour qu'on puisse entendre ce qu'il veut nous dire. Alors, premier point, je voulais voir avec vous, bien sûr, le silence de Dieu, des fois, est dû ou se manifeste par une relation qui est coupée, qui est interrompue. Et c'est là, en fait, la base de tout. Hein. Jésus-Christ est venu sur la terre pour bâtir une relation avec nous, non pas pour nous laisser dans la tradition, mais pour vraiment créer une relation avec nous. Et des fois, comme dans un couple, il y a un silence qui s'installe parce qu'il y a une relation qui est coupée, parce qu'il y a une incompréhension à la base, il y a quelque chose qui s'est passé. Et plus le silence s'installe, et plus la relation se coupe. Et Dieu ne veut pas nous violer, hein, c'est un Dieu d'amour, et lui, il est toujours là, toujours présent, il nous accueille. Mais souvent, en fait, le silence de Dieu est dû à nous, en fait, qui avons coupé les ponts avec lui. Et le Seigneur nous respecte, mais le Seigneur toujours nous dit mais viens, mon enfant, je t'accueille. Je t'accueille. Et il dit dans sa parole, demandez et vous recevrez. Et souvent, en fait, quand on est devant le silence de Dieu, c'est parce qu'on ne sait pas lui demander ce dont on a besoin. J'ai connu des gens aguerris dans la foi, hein, mais qui, quand ils avaient une situation de trouble, une situation difficile, en parlaient beaucoup aux frères et sœurs et tout ça, mais par contre, n'en parlaient pas à Dieu. Ils n'en parlaient pas à Dieu. Mais vraiment, c'est assez étonnant. Et en fait, ils en parlaient beaucoup, donc il y avait de la plainte, il y avait de la complainte, il y avait des choses comme ça, mais c'est pas grave, Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu connaît ma situation, et tout ça, je l'ai entendu de multiples fois, Dieu sait, Dieu connaît ma situation. Et à ça, on répond, oui, bien sûr, Dieu est omniscient, Dieu le sait. Mais Dieu dit aussi, demandez et vous recevrez. Il y a vraiment un engagement de notre côté à faire. Combien de versets parlent aussi de l'engagement de notre bouche, en fait. Souvent, ces gens, en fait, se disaient, Dieu a conscience de ma difficulté, Dieu a conscience de mon problème, donc j'ai pas besoin de lui exprimer les choses. Et ils prenaient pas le temps pour entrer dans une relation intime avec Dieu, où ils pouvaient épancher leur cœur et lui exprimer tout ce qu'ils ressentaient. Et c'est dommage. Ce que je voulais vous dire ce matin aussi, c'est que dans le silence de Dieu, un silence de Dieu, c'est pas une absence. C'est pas une absence de Dieu. J'ai envie de dire que Dieu travaille en coulisses. Pendant ces phases de silence, il est avec nous. Il est avec nous. Et vraiment, c'est une parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Dans Psaume 121, verset 4, il est dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde ou celui qui veille Israël. » Nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui ne sommeille ni ne dort, qui est à notre chevet, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas parce qu'on est dans, apparemment, un silence de sa part, qu'il ne travaille pas en coulisses, qu'il ne travaille pas. Dans Romains, vous connaissez ce verset qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il y a une autre version qui dit « Au lieu de toutes choses concourent au bien », ça dit « travaillent ensemble pour le bien. Donc en fait, il y a des choses qui se mettent en place dans l'invisible que nous, on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Nous, on voit que le silence, on attend la promesse et elle n'arrive pas. Et en fait, Dieu travaille en sous-jacent, dans l'invisible, et il met des choses en place. Et toutes ces choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qu'il aime, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'aimerais vraiment que ce matin, on puisse considérer que, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse aujourd'hui, une épreuve de maladie, ou peut-être une épreuve, on a besoin d'une direction particulière et on ne l'a pas, peut-être qu'on a un problème dans notre couple, dans notre famille. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné, Dieu travaille. Il travaille, car il a dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille, celui qui garde Israël. Il travaille en sous-marin, j'ai envie de dire, il travaille en sous-jacent, et il faut être patient, c'est sûr, il faut de la patience, mais ne pense pas que Dieu a abandonné ce point-là, cette difficulté-là. Il est avec toi parce que tu es son enfant et il t'aime. C'était mon troisième point. Christ est avec toi, en effet. On l'a chanté ce matin. Son amour durera toujours. Il y a des versets qui nous le disent très clairement. Dans Matthieu, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vraiment, Dieu est avec nous et il ne faut surtout pas en douter ce matin. Quand Joseph, en fait, quand on regarde la vie de Joseph, il a été d'abord vendu par ses frères, après avoir été jeté dans une citerne, après il a été remonté par ses frères, il a été vendu par ses frères. Ensuite, il a travaillé donc en Égypte, il a été accusé de viol, alors que ce n'était pas vrai, il a été mis en prison, il est resté 2 ans en prison, en fait. Et là, la Bible nous dit, alors qu'il était pendant 2 ans en prison, il nous est dit dans Genèse 37, « L'Éternel fut avec Joseph dans la prison, et il étendit sur lui sa bonté. » En fait, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu ne l'a pas sorti de la prison, quoi ? Pourquoi il l'a laissé pendant 2 ans dans cette prison ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les épreuves que l'on traverse, Dieu est avec nous. On le sait, frères et sœurs. C'est du béaba ce que je vous dis ce matin. Mais ce matin, je crois que ça peut toucher quelqu'un. Je crois que ça veut toucher quelqu'un et ça va en lien. C'est en lien avec ce qu'on a vécu ce matin dans le moment de louange. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu ne travaille pas. Il a formé des projets, tout tracé. Il trace son chemin et ça se voit pas. Pour l'instant, il n'y a pas l'aboutissement. Mais le chemin est en train de se dégager. Le chemin est en train de se tracer. Il est avec toi. Comme il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme il a été avec Joseph dans cette prison. Et puis on sait aussi dans Romains 8 que le Saint-Esprit intercède pour nous, vous connaissez ces versets. De même aussi l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. On est portés, frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Même si on ne voit rien, même si on est dans l'attente, même si les événements ne sont pas favorables, humainement parlant, sachez que Dieu est avec nous, sachez que Dieu travaille, il nous trace des chemins, et sachez que le Saint-Esprit intercède pour nous. Pourquoi ? Parce qu'un jour nous l'avons accepté tout simplement comme maître, comme sauveur. Amen. Et d'ailleurs ce matin, si quelqu'un est en recherche de Dieu et ne l'a pas encore accepté, je vous engage à le rencontrer ce matin, à donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que voilà, à partir de là, les chemins seront tracés pour vos vies. Et quoi que vous traverseriez, le Seigneur sera avec vous, il vous aimera, il vous aidera, il vous comblera. Un autre point aussi que je voulais partager, c'est que l'ennemi est là, dans nos vies, il est présent, bien sûr, il est présent dans ce monde, Satan est le prince de ce monde, nous dit la Bible. Et en fait, il se délecte en fait des silences de Dieu. C'est des périodes favorables pour lui. C'est-à-dire que quand on est sans retour de la part de Dieu, l'ennemi en profite avec sa petite voix pour venir nous dire « Tu vois, il est où ton Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et ça, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus jouissif, j'ai envie de dire, pour l'ennemi, c'est de voir les chrétiens douter de l'amour de Dieu et de l'action de Dieu dans leur vie. Et il met tout en œuvre pour cela. C'est important ce que je dis là parce que on n'a pas conscience de ce qui se trame dans les lieux célestes. Si on prend l'exemple de Job, en fait, un jour, Satan est venu voir l'Éternel, il s'est présenté devant son trône Et l'Éternel lui a montré Job, tu as vu, il est, c'est un homme intègre, c'est l'homme le plus intègre qu'il y ait sur la terre aujourd'hui. Il est béni, je le bénis, il prospère dans ses entreprises. Et là, Satan lui a dit, mais il est intègre parce que tu lui donnes beaucoup de choses. Il est intègre parce que tu le bénis beaucoup. Mais enlève-lui tout ce qu'il a et tu verras s'il ne renie pas ton nom. Et Dieu est entré dans ce deal-là, aussi surprenant que ça puisse paraître, avec toutes les conséquences que ça a engendré. Et bien entendu, on connaît l'histoire de Job, tout ce qu'il a perdu, aussi bien en bétail, en richesse, en famille également. Et ça nous montre en fait que dans les lieux célestes, en fait, nos têtes sont la cible de l'ennemi. Nos jours sont comptés. Je pense que Satan, vraiment, ne veut pas nous lâcher. Dans Luc, en fait, le Seigneur Jésus dira à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Mais voilà, on voit que le Satan s'est attaqué à Simon-Pierre et qu'il a réclamé à Dieu directement, l'a réclamé pour le cribler comme le froment. Dans Apocalypse également, il est dit, Apocalypse chapitre 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et à la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, qui ça ? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Est-ce qu'on réalise ce qui se passe en fait dans le monde spirituel ? Tous les jours, toutes les nuits, Satan vient au trône de Dieu et accuse les élus de Dieu. Il les accuse. Il n'est pas bien, regarde ce qu'il a fait. Regarde comment il se comporte, regarde ce qu'il a dit. Tu devrais me le donner, tu devrais me le... Tous les jours, il y a du deal qui se passe entre Satan et l'Éternel. Et quand on a conscience de ça, en fait, on se dit, mais Seigneur, ok, il y a un silence de Dieu, mais moi, je suis chrétien, j'ai foi en tes promesses, je sais que tu es avec moi tous les jours, je sais que tu ne sommeilles ni de dehors, alors je ne veux pas écouter la voix de l'ennemi. La voix de Satan dans les silences de Dieu, c'est quelque chose de super, super, super fréquent. Et nous avons la victoire parce que tout est accompli grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Et si nous sommes vainqueurs, puisque la Bible nous le dit, j'ai envie de dire, comportons-nous comme des vainqueurs. C'est-à-dire, ne nous laissons pas anéantir par la voix de l'ennemi, frères et sœurs. La petite voix qui vient te dire, bah, ton Dieu n'existe plus. Moi, vous savez, dans ma vie chrétienne, j'ai plus de 30 ans de conversion, mais je vous le dis franchement, hein, j'ai souvent douté, hein, j'ai souvent douté même de Dieu, de son amour. Hein. Je vous le dis franchement parce que je me suis laissé manipulé par la voix de l'ennemi. Et souvent, j'ai douté dans ces phases où j'attendais les choses de Dieu et j'avais un silence de marbre, le ciel ne me répondait pas. Et l'ennemi l'a vu et l'ennemi en a profité, il est venu avec des propos qui m'ont fait douter. Et soyons vraiment, frères et sœurs, conscients de ça et mettons au plus haut la parole de Dieu qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il est celui qui te garde. » Il trace des chemins, on l'a chanté ce matin. Son amour durera jamais, on l'a chanté ce matin. Et si on met ces versets, si on ressasse ces versets dans notre esprit toute la journée, je peux vous dire que la petite voix de l'ennemi, on va la faire taire, on va la faire taire. Donc, comportons-nous. Nous avons obtenu la victoire grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Soyons des vainqueurs dans notre comportement. Disons au diable, tais-toi, Satan, va des rétro, Satanas, comme il l'a dit. Jésus-Christ l'a dit lui-même, va des rétro, Satanas, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas me laisser influencer, je ne veux pas que tu pourrisses ma vie, j'aime le Seigneur, je sais que le Seigneur m'aime, et ensemble on va voir le bout du tunnel. Amen. Parce qu'en fait, la finalité de tout ça, c'est quoi ? C'est que le silence de Dieu, en fait, quand Dieu permet un silence, souvent c'est, et c'est même toujours le cas, c'est un moyen de nous faire grandir. C'est un moyen de nous faire grandir. Vous savez, les trois choses qui prédominent dans la parole de Dieu, c'est Paul qui en parle, hein, les trois choses élémentaires, l'amour, la foi et l'espérance. Et la plus importante des trois, c'est l'amour. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans l'attente de quelque chose, de la part de Dieu, et que ça n'arrive pas, on a intérêt, frères et sœurs, d'être dans la foi. On a tout intérêt à être dans l'espérance. Et ces deux choses vont faire grandir en nous l'amour et la relation d'intimité qu'on peut avoir avec notre Sauveur. Et moi, je crois que des fois, je reçois rien de Dieu, je suis dans le silence avec Dieu, mais je sens que Dieu lave mon cœur, je sens que l'Esprit de Dieu travaille mon cœur. Humainement, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je pense que vous l'avez tous vécu, ces moments où on ne comprend pas ce qui se passe, je n'entends pas de voix, il n'y a rien d'audible, je suis devant le Seigneur et je suis face à un silence de Dieu, mais spirituellement, le Seigneur travaille mon cœur, lave mon cœur, oriente mes pensées, oriente mon avenir, oriente ce que je vais faire demain. C'est invisible, inconscient, mais je sens la marque de l'Esprit de Dieu en moi. Et Dieu veut nous faire rentrer, frères et sœurs, dans cette intimité avec lui. Il dira dans sa parole, demeurez en moi. Il le dit souvent dans les évangiles, demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez dans mes pensées, demeurez dans mon amour, demeurez dans ce que je vous ai, des promesses que je vous ai faites, demeurez, et si la promesse tarde à arriver, mais demeurez en moi, je suis l'Éternel, je suis celui qui veille sur toi, je ne dors jamais, je ne sommeille jamais. Dans Jacques 1, il est dit, vous connaissez ce verset aussi, mais mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. J'ai envie de dire, restons confiants dans le Seigneur, frères et sœurs. Ce message, c'est un message pour peut-être rétablir la relation qui s'est brisée avec le Seigneur suite à des épreuves qui sont là, que vous avez traversé ou que vous traversez encore. Gardez foi en Dieu, il est là. Et si l'épreuve dure, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Je vais en arrêter là parce que j'ai à peu près tout dit.